du jour avec le Père Willem.
François, un pape énigmatique. Est-ce qu'il présente une morale pour le 21e siècle? Le pape François est-il conservateur ou progressiste? La question récurrente divise les analystes. La réponse ne se déduit pas aisément de l'étude du style de Bergoglio. Se dessine-t-elle davantage si l'on penche sur ses options en matière d'éthique? Parmi les questions urgentes, le pape François a privilégié celle posée par la mutation de la famille. Partant du constat que les modèles familiaux se diversifient de plus en plus, il s'agirait pour lui de réaffirmer la spécificité de la vision catholique de la famille, mais d'une manière nouvelle, après deux synodes soucieux de donner un fondement collégial aux différentes recherches, les travaux du pontificat ont conduit à la publication le 19 mars 2016 de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Mais une lecture attentive du texte fait apparaître que le pape n'y traite pas simplement de la famille ou du problème interne à la pratique liturgique de la foi catholique, de l'accès à la communion des divorcés remariés. C'est bien davantage, en contrepoint de celle de Nietzsche, une généalogie de la morale qu'il propose ici. Le double synode sur la famille, l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, qui en est issue, sont révélateurs de la méthode privilégiée par le pape François. Partir toujours du concret, partir toujours de la base. Il s'agissait du fondement des valeurs. Quoi de plus simple que d'admettre que c'est d'abord dans le lieu de notre premier réveil qu'elles nous sont transmises. La famille est pour le pape François, comme le veut la tradition catholique, le fondement de la morale. Et ce, d'autant plus que son expérience familiale a sans doute pour lui valeur d'exemplarité. Certes, la chose est connue, elle est commune à tous les papes. Par exemple, comme son prédécesseur, le pape a été élevé dans la foi par un père fort, rigoureux, volontaire, sinon nostalgique de son passé italien. Oui, le passé italien marque beaucoup la vie de Bergoglio et toute sa famille. Alors, un regard sévère, au dire de l'une de ses filles. D'ailleurs, c'est à lui, et non à sa mère, qui ne tenait pas beaucoup, que le jeune Giorgio confie qu'il voulait devenir prêtre. Mais cette vocation, on l'a vu, a davantage été confiée et influencée par sa grand-mère, Rosa, dont il dit qu'il l'aimait beaucoup. Et cette influence contribue sans doute à l'image très porteuse que le pape François de la famille, cercle élargi sur trois générations qui se côtoyaient quasi quotidiennement. Que la famille soit le socle, ce dont dépend la transmission des normes de conduite, est une conviction qui se trouve renforcée chez lui par une dimension culturelle non négligeable. Traditionnellement, on sait que la famille italienne est particulièrement unie, et celle de Bergoglio ne fait pas exception, puisque les grands-parents ont choisi d'émigrer en Argentine pour fuir le fascisme et rejoindre des parents déjà installés. De ce rapide rappel biographique, on peut induire que la sacralisation de la famille voulue par l'Église entre en correspondance avec l'expérience vécue par le pape dans sa jeunesse, expérience plus sincère qu'idéalisée. Il est tentant d'objecter qu'une autre expérience de la famille eut conduit le pape à un discours sur elle moins favorable. C'est à quoi on pourrait répondre que cette expérience, Bergoglio l'a faite aussi à travers la confession de ses paroissiens. Il sait qu'il y a des familles étouffantes, mais il observe aussi, dès le premier paragraphe de son exhortation apostolique, que le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive aussi l'Église pour être présente. De fait, le philosophe Luc Ferry constatait dans La Révolution de l'amour, paru en 2007, qu'aujourd'hui, on ne veut plus mourir pour Dieu ou pour des idées politiques, mais qu'on serait prêt à le faire pour ses enfants. Il y a là un paradoxe indéniable. C'est au moment où les modèles familiaux s'affranchissent de la nucléation traditionnelle, père-mère, enfant, et proprement d'autres conceptions du vivre ensemble qui éclairent la réalité. Et pour le pape, c'est important de se référer à ce vivre ensemble. Et c'est pourquoi François rappelle que cela nous plaise ou non, la famille est la base parce qu'elle est le fondement de la vie en commun et le remède de la désintégration sociale. Mais comment l'Église parle-t-elle aujourd'hui des modèles autres que la famille dite naturelle, modèle qu'elle ne feint pas d'ignorer puisqu'elle veut prendre en considération la situation actuelle des familles en vue de garder les pieds sur terre. L'économie du texte d'Amorit Laetitia ne semble laisser aucun doute, partant de la parole de Dieu et constatant que la Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. Le pape, qui aime parler en images, nous propose comme première représentation de modèle familial d'entrer dans une maison sereine pour y voir la famille assise autour de la table de fête. Au centre, nous découvrons en couple le père et la mère avec toute leur histoire d'amour. Cette image joyeuse véhicule avec elle un modèle patriarcal traditionnel qui doit rester, aux yeux du pape, la référence de base de tout imaginaire familial chrétien. Il n'est pas indifférent à cet égard qu'Amoris Laetitia ait été publié un 19 mars, jour de la solennité de Saint-Joseph, et que, en signant, François ait jugé bon de le rappeler. Mais il serait réducteur de ne voir là qu'une apologie de l'autorité paternelle. L'autorité paternelle, c'est beaucoup plus que cela. D'abord, parce que, issu d'un travail synodal, la mise en avant d'un modèle classique de la famille s'est voulue une réponse susceptible de rassurer un clergé confronté à des situations très diverses comme la polygamie en Afrique, la pratique généralisée du divorce et conséquemment la hausse du nombre de familles recomposées ou monoparentales, ou encore l'institution du mariage homosexuel en Occident. Ensuite, parce que ce modèle n'est précisément qu'un modèle et qu'il appelle de nouvelles mises en pratique.
Thank you.